Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Élodie Crépel. Élodie est spécialisée dans l'accompagnement des personnes hypersensibles et à haut potentiel. Elle a aussi fondé avec son mari la maison d'édition Elle et Graine, qui a tout un tas de chouettes livres à son actif, notamment les ouvrages de Fanny Vella, aussi les ouvrages de Sévani, et ce, bien évidemment, d'Élodie sur des sujets d'hypersensibilité, et pour lutter aussi contre les discriminations et différentes violences, notamment les violences éducatives ordinaires. Dans cette discussion avec Elodie, vous allez nous entendre échanger sur le sujet de l'hypersensibilité et de la parentalité. Un sujet que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et vous allez pouvoir assister à ma découverte avec Elodie de sujet par rapport aux interrogations que je pourrais avoir dessus. Et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Elodie. Je suis ravi de te recevoir dans ce petit épisode hors série spécial sur l'hypersensibilité. C'est un sujet que je maîtrise pas, en fait, et qui m'intéresse particulièrement, notamment sur le domaine de la parentalité. Alors toi, tu accompagnes des personnes hypersensibles dans leur parcours de vie. Avec ton expérience à toi, comment est-ce que tu pourrais dire, comment est-ce qu'on vit sa parentalité quand on est hypersensible?
Alors déjà, je voulais te remercier pour ce podcast, parce que je suis quand même très flattée que tu m'aies proposé, donc merci beaucoup.
Avec plaisir.
Alors, l'hypersensibilité et la parentalité, je pense que d'abord, il faut que je fasse une petite parenthèse de ce que c'est l'hypersensibilité, parce que peut-être que les gens qui vont écouter ce podcast n'en ont aucune idée. Il y a deux choses essentielles pour se dire hypersensible. Il y a une hyperémotivité, donc les émotions, comme on sait, et c'est chez tout le monde pareil, sauf si on est vraiment hyposensible ou dans la case des sociopathes. Alors, je mets ça entre guillemets parce que souvent, on a l'image d'un sociopathe un peu comme dans les séries. Mais c'est pas du tout ça, hein. Tous les sociopathes ne veulent pas tuer tout le monde, ou pas du tout. C'est vraiment, en fait, ils vont ressentir beaucoup moins les émotions, on va dire ça comme ça. Mais sinon, voilà, tout le monde, on ressent des émotions en longueur de journée, et c'est normal, et c'est fait un petit peu en dents de scie, en haut, en bas, en haut, en bas. Chez les hypersensibles, on est plutôt sur du grand 8, en fait. C'est-à-dire que les hauts sont très très hauts, les bas sont très très bas, et ça peut aller très vite. C'est pour ça que pendant des années, notamment, on a diagnostiqué, et là le terme est bon parce que je rappelle que l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais pendant longtemps, on a diagnostiqué l'hypersensibilité comme de la bipolarité. Ça n'a absolument rien à voir. Et encore aujourd'hui, malheureusement, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de témoignages et que ça tend à disparaître. Sachant qu'on peut être hypersensible et bipolaire sans être hypersensible, ce sont vraiment deux choses différentes. Donc du coup, il y a cette hyperémotivité, mais il y a aussi des hyperesthésies. L'hyperesthésie, c'est-à-dire que tu as un de tes sens qui est au-dessus de la moyenne. Donc tu vas ressentir plus les choses. Alors que ça soit par exemple ton odorat, le goût, l'ouïe, la vue ou le toucher. Donc ton hyperesthésie, par exemple kinesthésique, je donne un exemple qui parle souvent, c'est cette fameuse étiquette qui gratte. Et qu'on peut retrouver chez les bébés. C'est pour ça qu'on parle d'hypersensibilité dès la naissance. Parce que par exemple, y a certains bébés, ils vont être très 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 gênés par cette petite étiquette ou parce qu'ils ont la couche mouillée par exemple. Alors que pour d'autres bébés, aucun souci. Ça peut être aussi les bruits. Et là, ça va, hop, tu vois, enchaîner avec ta question sur la parentalité. Parce que la première chose qu'on entend souvent chez les parents hypersensibles, c'est « je n'en peux plus du bruit ». Parce que c'est en fait, nos bébés pleurent, crient, les enfants, ils s'expriment de façon très bruyant parfois, mais que ça soit autant dans les pleurs que dans les rires. Et ça peut gêner énormément le parent hypersensible, surtout si effectivement il a une hyperesthésie acoustique, du coup. L'hyperesthésie, c'est-à-dire que vraiment, le bruit, il entend... C'est-à-dire qu'un son peut être un bruit. Et donc forcément, il faut s'imaginer toute la journée, c'est comme s'il était, en plein concert de métal avec deux baffes de chaque côté des oreilles. ça fatigue énormément. Voilà. Et quand on est hypersensible, ça ne veut pas dire qu'on a les cinq sens qui sont en hyperesthésie. Hein. On peut en avoir qu'un seul, par exemple. Et puis, ça peut changer. Pour donner un exemple plus personnel, moi, c'est très visuel. C'est-à-dire que j'ai découvert le minimalisme il y a 2 ans. Donc, on est devenu minimaliste. Et en fait, je ne me rendais pas compte à quel point avoir du désordre ou en tout cas des objets autour de moi, eh bien, impactait mon état et mon humeur. C'est-à-dire que je me sentais en fait écrasée sans savoir le pourquoi, parce qu'en fait, on est tout le temps visuellement sollicité. On est dans une société de sollicitation visuelle, hein, que tu ailles dehors ou maintenant sur les écrans. Par exemple, la publicité, on n'a jamais été autant sollicité visuellement tout le temps, tu vois. Et si en plus chez moi j'ai plein de choses, et ben en fait ça m'oppresse. Et ça je le savais pas. Puis en fait, je suis devenue minimaliste et en fait je me suis rendu compte que j'avais une hyperesthésie visuelle que je ne réalisais pas. Donc parfois tu vois, les gens sont peut-être hypersensibles, mais ne sont pas au courant. Et je pense que c'est important dans la parentalité de se découvrir hypersensible, parce que quand on comprend quelque chose de soi-même, eh bien déjà ça donne différentes clés. Et c'est pas le but d'enfermer dans une case avec une étiquette, hein, parce que j'entends souvent cette critique en disant ce n'est qu'une étiquette. J'ai envie de dire que déjà d'une part, une étiquette ça se colle et ça se décolle, donc limite c'est pas très grave. Mais en plus de ça, des étiquettes de toute façon on en a tous et toutes. Je veux dire, depuis notre plus tendre enfance on nous en colle partout, tu vois. Donc autant choisir l'étiquette qui t'est le plus confortable, parce que si c'est toi qui te la colle, tu sauras comment la décoller quand t'en auras plus besoin. Donc c'est pas un mal pour moi. Et puis en plus, ça peut te donner des outils essentiels. C'est-à-dire que vraiment, de te dire que, ok, je suis hypersensible. Ah, mais c'est pour ça que je réagis comme ça. Ah, mais alors si je réagis comme ça, peut-être que je peux faire autrement. Et comment je peux faire dans ma parentalité autrement? Surtout qu'en général, les chiens ne font pas des chats. Et que quand il y a un parent hypersensible, probablement un enfant, et vice-versa.
Et c'est parfait de le savoir, parce que c'est important de pouvoir se comprendre. J'aime beaucoup ton image de l'étiquette qu'on peut se coller, parce que comme ça, on sait comment la décoller. C'est très important, en effet, de s'en rendre compte. C'est vachement intéressant. Moi, ce que je comprends, c'est que, pour le coup, avec l'hyperesthésie, tu as une espèce de surcharge, c'est
totalement.
Ça, qui peut arriver.
Totalement. C'est-à-dire que ça peut être la vue, par exemple. Je pense notamment, j'ai la vue, mais ça peut être notamment, tu travailles avec les écrans ou avec un néon dans ton bureau, par exemple. C'est des choses qui vont, en fait, te fatiguer. Tu vas pas t'en rendre compte. Parce que ce qui est intéressant, c'est que, moi, j'aime bien relier justement l'hyperesthésie aux émotions. À un moment donné, la personne, elle s'agace. Pourquoi elle s'agace? Pourquoi en fin de journée, elle va perdre plus patience? Pourquoi elle va être un peu plus tendue? Pourquoi elle va être un peu plus sur la défensive? Il faut savoir qu'avant une émotion, comment fonctionnent les émotions, c'est qu'avant, il y a un ressenti. Mais comme on est des êtres un peu plus intellectuels en tant qu'être humain, eh bien, on est moins connecté à nos ressentis. Alors que des ressentis corporels, on en a tout le temps. Alors bien évidemment, tu vas me dire, on ne peut pas être toujours connecté à nos ressentis corporels parce qu'on ne pourrait pas faire nos tâches au quotidien, tu vois. Mais ce sont des signes. Par exemple, voilà, j'ai les yeux qui commencent à piquer, qui commencent à brûler. Alors, je ne peux pas m'arrêter forcément de travailler, mais ça veut peut-être dire que là, si j'étais attentive à ça, je vais faire une pause, je vais éteindre mon écran, je vais sortir à la lumière du jour et non pas à une lumière, tu vois, un éclairage électrique. Et peut-être que ça ira mieux. Sauf qu'en général, on ne fait pas attention à ça. Et en fait, au fur et à mesure, on fatigue. Puis après, on se tend physiquement, mais on ne fait toujours pas attention à ça. Et puis après, on n'est pas bien. Puis on commence à tout prendre mal. Alors du coup, on va dire, je suis susceptible. Du coup, tu vois, ça va être un cercle vicieux. Genre, mais pourquoi je suis comme ça? Ça ne va pas, on va culpabiliser. En plus, l'hypersensible va sentir quand il agace les autres, parce qu'il a comme des antennes, si tu veux, où il capte les émotions des uns et des autres. Donc, il va dire, ça y est, on ne m'aime pas comme je suis. Ça ne va pas, j'ai un problème, c'est moi qui ai un problème. Et tout ça va générer, si tu veux, vraiment un cercle vicieux immense. Et il va finir sa journée sur les rotules en disant, j'ai passé une mauvaise journée et tout. Alors que s'il avait écouté ses petits ressentis au départ, parce qu'il avait une meilleure connaissance de lui, tu vois, eh bien, il aurait pu éviter tout ça. Et dans la parentalité, c'est pareil.
Mais j'ai vraiment l'impression, dans ce que tu dis, que pour le coup, avoir conscience de ses perceptions sensorielles, c'est essentiel.
En tant qu'hypersensible, encore plus. C'est une évidence. Parce qu'on est... Ouais. Moi, j'aime bien, il y a un roman de Saverio Tomasella, c'est « À fleur de peau ». Et je trouve que ça correspond assez bien. Par exemple, l'hyperesthésique kinesthésique, moi j'ai beaucoup de mal sur mes fleurs, les massages, donc aller voir un kiné, un ostéopathe, c'est l'horreur pour moi, surtout s'il ne fait pas attention à tout ça, tu vois. Mais je ne suis pas la seule, et ça c'est hyper important de le savoir, parce que si on ne le sait pas, on se dit qu'on n'est pas normal. Alors ça déjà, ça génère moralement, tu vois, une enclume sur soi, c'est le poids de « on n'est pas normal ». Alors là, je te renvoie à Todd Ross, qui a écrit un livre incroyable, « La tyrannie de la norme ». Parce qu'il remet tout en question par rapport à ça, vraiment. Et donc, il n'y a pas de normal ou de pas normal. Mais on a beau le savoir, ça n'empêche pas que parce que depuis tout petit, on a bien compris qu'il y avait une normalité. Et la normalité, c'est la majorité. Et effectivement, il y a entre 20 et 30% d'hypersensibles, selon les études. Donc, ce n'est pas la majorité. Mais c'est quand même une bonne partie de la population.
Bah, c'est oui, conséquent quand même. Ouais.
On n'est pas juste 1 ou 2% quand même. Donc,
J'aurais pas dit.
Mais parce qu'on est beaucoup dans le blocage et dans la gestion émotionnelle. Ce terme gestion émotionnelle, je l'ai en horreur, même si je sais bien que c'est un type de langage. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup à se dire, il faut que je gère mes émotions, il faut que je les canalise. Parce que sinon, on a cette sensation. Et alors, c'est ça qui est très intéressant par rapport à ton podcast, tu sais, où on agit comme un enfant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, agir comme un enfant, tu vois? Parce que c'est comme si c'était négatif. Donc là, tu vois, ça te parlait un peu cette image-là. D'ailleurs, tous les termes sont dans l'infantilisation. Pardon. Et même ce terme-là, infantilisé, je pense qu'on peut se réinterroger. Est-ce que c'est mal d'infantiliser ou est-ce que c'est parce que justement on fait de l'adultisme que du coup on voit l'infantilisation? Tu vois ce que je veux dire?
Ah, mais complètement. Je vois exactement ce que tu veux dire. Et c'est ça qui est justement intéressant, c'est que d'un côté, on a, comment dire, on a cette espèce de vision de l'enfant dont il faut absolument sortir et s'éloigner, alors que justement, dans cette enfance, on a cette connexion aux émotions et aussi, quelque chose que j'ai déjà dit dans mes épisodes, d'être ici et maintenant, beaucoup plus que quand on est adulte, et il faudrait peut-être qu'on s'en inspire au lieu de vouloir le repousser.
Totalement. Après, je crois qu'on peut... Enfin, il y a la théorie, la pratique... Et tu vois, je crois qu'il ne faut pas vivre dans cette utopie de la théorie, bien sûr, dans le sens où l'enfant a quand même moins de choses, de responsabilités que nous en tant qu'adultes, bien évidemment. Ce qui fait qu'on ne peut pas vivre tout le temps dans l'ici et maintenant, parce qu'en fait, dans ces cas-là, limite, ça serait presque dangereux. Tu vois, tu gères par exemple, tu ferais plus attention à rien, en fait, et tu serais juste avec tes propres envies de suite, alors que c'est pas possible. Mais naturellement, je pense que quand on est dans l'accompagnement de ces émotions, justement, et pas dans la gestion, on arrive déjà plus à être dans l'ici et maintenant, mais d'arriver à le situer justement sur une échelle de temps. Et c'est ça que j'aime bien justement, c'est de voir cet ici et maintenant dans une échelle temporelle. C'est-à-dire que, certes, on est dans le ici et maintenant, mais c'est pas que on est dans une bulle de présent. C'est parce qu'en fait, on va prendre en considération nos expériences passées, tout en essayant de voir en fait l'avenir et comment on va essayer de le rendre en fait accessible et positif pour nous et pour chacun d'entre nous. C'est quand même le but d'un parent, c'est de prendre en considération justement le passé et l'avenir pour mieux justement s'occuper de son enfant.
Tout à fait, c'est tout à fait d'accord avec toi, c'est bien justement notre charge aussi, mais c'est aussi ce qui rend le chemin passionnant de réussir à faire tout ça, et après, en effet, c'est essentiel. Dans l'ici maintenant, après, moi je le cantonne en fait à la relation à l'autre, tu vois, par exemple, toi et moi on se parle, voilà, qu'on soit ici maintenant, qu'on arrive à se déconnecter du reste, ça c'est...
Alors ça, je ne sais pas faire.
Ah,
moi,
ouais,
je fais partie de ces gens qui pensent à 10 choses à la fois en même temps. Et c'est OK. Pendant longtemps, tu vois, j'ai culpabilisé parce que je me disais, c'est bizarre. Justement, en lisant Eckhart Tolle, tu sais, je me disais, ah, mais j'arrive pas à le faire et tout, c'est quand même bizarre, tout ça. Puis on te parle de méditation, tu sais, vraiment de te déconnecter de tout. Et comme si c'était un but en soi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si on arrêtait avec cette tyrannie de la norme, il n'y aurait pas de but en soi. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous, on a notre propre but et notre propre fonctionnement. C'est comme en ce moment, il y a énormément la mode autour du yoga. Alors je dis mode, mais c'est sans négativité aucune, hein, bien sûr, sans jugement, mais on en parle beaucoup de cette pratique. Et de la méditation également. Et j'ai beaucoup, notamment, de surdoués en coaching et qui me disent, mais moi, j'arrive pas à m'y mettre. Et alors, c'est quoi le problème? Vous rêvez d'être prof ou de faire cette discipline, je comprends pas. Je dis, mais parce qu'il paraît que ça fait du bien. Bah oui, mais peut-être qu'à une partie de la population.
Il y a plein de trucs.
Ça. Si ça ne vous fait pas du bien, ne forcez pas. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que, je ne sais pas, en fait, quand on est tout le temps en perpétuelle évolution, peut-être que dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, vous y mettrez et ça vous fera du bien à cet instant T. Mais sinon, en fait, ne faites pas un truc qui vous fait du mal. Il y a suffisamment de choses dans notre vie qui nous fait du mal et sur lesquelles on n'a pas d'impact. Donc, du coup, ne pas en rajouter, c'est bien aussi.
Et j'ai cette question qui me vient là quand tu parles de normes. C'est une question qui me vient souvent quand je pense à l'hypersensibilité, notamment quand on parle de l'hyperémotivité. Alors, je vais essayer de bien la formuler. Si tu veux, dans une société où les émotions sont quand même... on nous apprend à les mettre de côté, principalement. dans une société comme ça où les émotions sont pas au centre, on nous a pas forcément appris à bien les développer, à les accueillir. Je te parle de mon expérience personnelle, c'est que moi, si tu veux, j'ai passé un petit peu plus de 30 ans de ma vie avec, pour citer Hermione Granger, la capacité émotionnelle d'une petite cuillère, parce que mon éducation, parce que je suis un homme, oui, parce que tout ça. Et si tu veux, quand je me suis reconnecté à mes émotions, ça a été un flow incroyable. Très sincèrement, je pense que j'aurais rencontré le terme hypersensibilité à ce moment-là, je me serais dit, mais je suis hypersensible, c'est pas possible. Sauf que, je veux dire, où est le... Sauf que je pense pas que ce soit le cas, mais où est, pour le coup, la... Comment est-ce qu'on jauge une hypersensibilité par rapport à une norme sociale où l'émotion est refoulée?
C'est bien difficile. Oui, tu me parles de l'effet Barnum. Donc cet effet Barnum, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est une expérience qui a été, bon, je laisserai aux personnes voir sur Internet, c'est assez facile de trouver Barnum, donc B-A-R-N-U-M. Et en fait, c'est le fait que lorsque quelqu'un va énumérer des caractéristiques, tu as la sensation que c'est toi, forcément. Pour la petite parenthèse, l'expérience était intéressante parce que c'était sur les horoscopes. Donc en fait, c'est tellement généraux, en général, enfin ils sont tellement généraux qu'on peut tous se reconnaître dedans. C'est « Ah mais oui, c'est tout moi !» Voilà, donc c'est courant, voilà, au niveau de l'hypersensibilité. Ce qui est intéressant avec l'hypersensibilité, c'est que c'est un... On va s'auto-dire, en fait, si tu veux, hypersensible. Alors, il y a deux façons de voir l'hypersensibilité. Il y a l'hypersensibilité donc, de naissance, qui est vraiment l'état et qui va se voir en fait au niveau de notre fonctionnement sur toute notre vie. Et on va le voir dès l'enfance. Donc certes, souvent on nous dit tous les enfants sont hypersensibles. C'est faux. C'est faux. Oui, il y a une grande densité chez les enfants au niveau des émotions, et surtout si on leur laisse toute la liberté et tout l'espace pour le faire. Mais tous les enfants ne sont pas hypersensibles. Il y a aussi le terme de baby. Alors après, tu trouveras des théories plus ou moins farfelues là-dessus. Il y en a qui sont pour, contre. Bon, je laisse à chacun faire son point de vue. Mais il amène quand même une idée intéressante sur cette intensité par rapport à d'autres enfants, tu vois. Et ensuite, il y a l'hypersensibilité qu'on va vivre en fait sur une période donnée de notre vie, face à un trauma, face à quelque chose de difficile. Par exemple, tu viens de vivre le décès d'un proche, c'est difficile pour toi. Bah oui, en fait, tu vas peut-être beaucoup pleurer, avoir beaucoup d'émotions, avoir le besoin d'exprimer tes émotions. Et tu vas vivre en fait une période de grande densité émotionnelle, mais ça ne fait pas de toi un hypersensible pour autant.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et donc, du coup, pour essayer de répondre à ta question, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que... Et c'est pour ça que je revenais à cette histoire d'étiquette. Parce que je me dis, ma foi... À qui ça fait du tort? À qui ça fait du mal? À personne si jamais tu as envie de te dire hypersensible. Si jamais ça répond finalement à un besoin à un moment donné de ta vie. Tu vois? C'est plus compliqué par contre si tu mets cette étiquette sur ton enfant. Là, c'est beaucoup plus délicat. Mais là, je parle vraiment des gens pour eux-mêmes. Tu vois? De se dire, moi en fait, je pense que je suis hypersensible. Donc tu vas te renseigner sur le sujet, tu vas peut-être en parler à tes proches et ça va peut-être te servir. Alors, je mets le mot en gras, mais d'excuse. D'accord ? Pour expliquer certains de tes comportements. Ma foi, pourquoi pas ? Le problème, c'est si jamais tu te dis « Ah ben, je suis hypersensible, c'est comme ça, je ne peux pas changer. » Là, il y a un problème, par contre. Parce que certes, l'hypersensibilité, on ne peut pas la changer, mais il y a autant de façons de vivre l'hypersensibilité que d'hypersensible. Tu vois ? Moi, en tant qu'hypersensible, je suis totalement différente d'autres personnes hypersensibles. On n'a pas la même hypersensibilité, déjà. Puis en plus, il y en a qui vont la vivre... difficilement, d'autres qui vont en faire un atout, et puis en fait, on est tous différents. Surtout que des étiquettes, on n'en a pas qu'une, donc je veux dire, en fait, moi, je suis une femme cisgenre, je suis blanche de peau, tu vois, il y a plein de... Et ça joue, en fait, toutes ces étiquettes. Tu vois, le fait d'être née en France, c'est quand même un pays différent que si j'étais née ailleurs, et ça joue aussi dans ma personnalité et dans ma construction psychique. Ben, c'est un peu pareil avec l'hypersensibilité. Et à un moment donné, peut-être que... Finalement, tu sais, moi, avec mon travail, oui, je le dis que je suis surdouée hypersensible, mais dans ma vie de tous les jours, je ne me présente pas en disant « Bonjour, Élodie, surdouée hypersensible. » tu vois, je le présente pas comme ça.
Ouais, et puis ça fait, voilà. Ça fait bizarre.
Et puis je m'en fous, en fait. Mais non, ça a très peu, finalement, d'impact dans ma vie de tous les jours. Parce que je l'ai tellement accepté que finalement, ça fait même plus partie des étiquettes, vraiment, en fait, dont j'ai besoin.
Et oui, mais c'est ça, c'est que t'as plus forcément ce besoin de définition permanent qui est important. Et ça, je trouve, enfin, tu me dis si je me trompe, mais ça, je trouve que c'est quelque chose qui vient justement qu'on s'est trouvé.
C'est ça.
On s'est trouvé, on n'a plus besoin de se définir.
Mais on a besoin d'une étape intermédiaire, et l'étape intermédiaire,
c'est ça.
C'est cette étiquette quand même, parce qu'elle permet, ben voilà, encore une fois, vraiment de se comprendre et de le dépasser. C'est pour ça que, ben, ma foi, j'ai pas de soucis avec ces gens.
Et puis c'est toi qui te la colle.
C'est ça, c'est très différent.
Tu vois, et ça, tu vois vraiment, c'est une phrase que je pense qui a marqué pendant très longtemps, parce que c'est toi qui te la colle. Non mais j'ai fait un épisode sur les étiquettes, où justement, ce qui me dérange, c'est justement les étiquettes qu'on colle aux enfants notamment, voilà. et aux gens. Mais quand c'est toi qui te la colle, et avec ton cerveau construit et tout, c'est en effet une démarche totalement différente et même très intéressante.
Et dans la parentalité, c'est là où la différence, c'est-à-dire que je préfère quelqu'un qui me dise « je pense être hypersensible, comment je peux accompagner mon enfant ?» que plutôt « je pense que mon enfant est hypersensible, comment je peux l'accompagner ?» Parce que finalement, quand on se pense hypersensible, on va mettre en place des outils pour s'accompagner soi-même dans ses émotions. Et c'est quelque chose qu'on peut faire après, vu qu'on sait le faire pour soi. On va davantage pouvoir le faire auprès de notre enfant, qu'il soit hypersensible ou non, au final.
Donc, Élodie, tu parlais aussi de construction psychique dans ton propos, à l'instant, et ça m'interpelle parce que, vraiment, moi, je parle beaucoup de déconstruction, que ce soit sur la violence éducative ordinaire ou sur ce qu'on peut rencontrer comme injustice dans notre environnement. Et donc, ce côté déconstruction, quand on est hypersensible, parce que c'est quand même des moments qui peuvent être assez compliqués à vivre. Pareil, je vais parler de mon expérience personnelle. Je sais que moi, la déconstruction, notamment sur la violence éducative ordinaire, ça a déclenché un flot d'émotions. Et je me dis, mais là, pareil, si j'étais dans l'hyper-émotivité, mais ça serait, ça serait un tsunami.
Non, parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que la force de résilience des hypersensibles, il y a une force incroyable. En fait, ils sont déjà habitués de base à ressentir tout. Donc, je veux dire, les émotions, c'est pas quelque chose de bizarre pour eux, au contraire, c'est leur quotidien. En fait, il faut juste maintenant savoir un petit peu comment les vivre. Mais en fait, ils savent ce que c'est d'être dans des états, intenses. Donc, c'est pas ça qui va être compliqué, en fait. Et justement, parce qu'ils ont une grande force de résilience, la déconstruction psychique fait partie de leur quotidien, à condition qu'ils acceptent cet état de fait. Parce qu'en fait, être en lutte contre soi-même, avec soi-même sans arrêt, t'as déjà en fait suffisamment d'énergie de perdue, parce que là, pour nous, c'est de l'énergie perdue, d'être en lutte contre soi-même, pour pouvoir en mettre dans une déconstruction psychique. Mais sinon, en fait, ce sont des personnes qui, tout le temps, sont en remise en question du monde, d'eux-mêmes. Alors, du coup, c'est toujours très intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « je manque de confiance en moi ». Et quand je décortique, pour bien faire, la différence entre l'estime de soi, le manque de confiance, tout ça, mais en fait, non, c'est pas qu'ils manquent de confiance en eux, c'est parce qu'ils mélangent le fait, et c'est parce que surtout la société leur envoie cette image, que de se remettre en question et de douter d'eux-mêmes, c'est un manque de confiance. Ben, pas du tout. C'est très positif, parce que ça leur permet tout le temps d'évoluer. Sauf que dans cette société, la confiance en soi, c'est de ne jamais douter de soi. Moi, je dis c'est le contraire. Parce que quand tu as assez confiance en toi, tu peux douter de toi sans que ça soit... l'hécatombe. Parce que justement, t'es assez solide pour le faire, tu vois.
Mais c'est vrai qu'après, je pense que ça, c'est aussi intimement lié à socialement un rapport à l'échec en France qui est très complexe. On vit l'échec comme une fin en soi, comme une définition aussi de son être, alors que l'échec n'est qu'une étape d'un apprentissage.
On a tous échoué avant.
Et ça peut être aussi une étape d'un apprentissage, mais c'est ça. Et ça peut aussi être une étape d'un apprentissage de soi. Moi j'échoue, on en parlait tout à l'heure en off, mais moi des fois j'échoue dans ma parentalité, des fois je crie sur ma fille, des fois j'essaye de le faire le moins possible, mais j'écris sur ma fille. Est-ce que ça veut dire, tu vois, si je devais écouter la société, je devrais m'arrêter et dire stop, c'est bon, je suis un mauvais parent?
C'est ça, là c'est...
Voilà. Sauf que non, c'est une étape d'apprentissage, donc ok, qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Comment est-ce que je me sens? Ça sert à être analysé. Mais oui, c'est compliqué, oui. Et la remise en question, c'est en effet une force. je pense, comme toi, que la résilience, c'est important. Et un autre sujet qui est essentiel et dont on parle aussi beaucoup ici dans mon podcast, c'est les discriminations, notamment le sexisme. Tu vois, c'est, je me dis, c'est déjà terrible à vivre. Enfin, j'imagine, parce que moi, je suis un homme, j'ai pas beaucoup, même pas du tout connu de sexisme dans ma vie.
Bah si.
Pas subi.
Aussi.
Oui, non.
Parce que justement, les garçons, leur dit de pas avoir d'émotions.
Parce que les, j'ai mes injonctions de virilité qui sont sociales, mais je n'ai pas subi de la part d'un tiers, si tu veux, un sexisme exacerbé. Mais c'est super intéressant que tu le prennes sous cet angle-là, parce que ça rajoute une dimension à ma question.
Oui, parce que j'allais te dire, je pense qu'en fait, les conséquences sont différentes, mais en fait, si, il y a des femmes qui amènent cette injonction de virilité chez les hommes, justement. Et moi, j'ai beaucoup de coachés hommes qui justement souffrent énormément de leur hypersensibilité à cause de cette injonction de virilité.
Mmh.
Tu vois, elle ne serait pas là, en fait, leur hypersensibilité ne serait pas du tout un problème. Et donc si, en fait, c'est, en tant qu'hypersensible, c'est beaucoup plus difficile d'être un homme hypersensible qu'une femme hypersensible, justement. Tu vois, là, le sexisme, pour le coup, ben, il fait plus de tort aux hommes qu'aux femmes dans cette thématique-là.
De par les injonctions qui sont faites justement émotionnelles aux hommes de devoir les cacher, les intérioriser, ne
c'est
pas
terrible.
Les exprimer.
Et en fait, et du coup,
c'est super intéressant.
Du coup, ça, c'est terrible parce qu'en plus, c'est très drôle parce que je suis également diplômée de médiation familiale, donc je propose aussi des médiations. Et parfois, du coup, il y a la femme qui, elle, peut se dire hypersensible, l'homme, non, pas du tout. Et en fait, quand on travaille, l'hypersensible, c'est pas du tout la femme, c'est l'homme. Sauf qu'il est tellement, en fait, dans le contrôle de ses émotions. De toute façon, quand on est dans le contrôle de ses émotions, on ne supporte pas que les autres ne le soient pas. Mais ça, c'est pour tout. Tu sais, par exemple, je vais prendre une autre thématique qui n'a rien à voir, mais quelqu'un qui va faire énormément attention, par exemple, à son physique ou à son poids, tout ça, eh ben, il va être beaucoup plus critique envers ceux qui ne le font pas. Tu vois, et c'est, je suis d'ailleurs le premier qui va remarquer si, je ne sais pas, son ou sa partenaire a pris du poids, des choses comme ça. Et ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au niveau de l'hypersensibilité et des émotions, eh ben lui, il était tellement, tellement dans la gestion de ses émotions, dans le contrôle de tout, qu'il ne supportait pas du tout quand sa femme avait une émotion un peu plus intense. Et du coup, il disait, mais t'es hypersensible, c'est pas possible. Et du coup, il la faisait passer pour une folle presque. Et donc, elle se disait, mais je suis hypersensible, j'ai un problème d'hypersensibilité. Alors qu'en fait, en travaillant avec eux, pas du tout. Mais elle n'était pas du tout hypersensible. C'est lui, mais il se canalisait tellement. Et en fait, il faisait de la peine à sa femme, et donc ça a été très compliqué dans le couple, mais aussi à ses enfants. Parce que justement, il était tellement en guerre avec lui-même, il ne supportait tellement pas cette partie de lui-même, qu'il ne supportait pas que ses enfants puissent avoir, des tempêtes émotionnelles. Et sur cette idée de tempête émotionnelle, c'est intéressant parce que on utilise beaucoup ce terme pour éviter de dire crise, pour parler des enfants. Mais en fait, les gens oublient qu'en grandissant, on en a encore. C'est-à-dire que dans la parentalité, alors tu utilises le terme que tu veux, bienveillant, positif, respectueux, mais non, il y a toute une flopée de termes pour dire la même chose.
Moi, je préfère éclairer.
Allez, allons-y pour éclairer. Dans cette parentalité éclairée, on admet, que l'enfant a des tempêtes émotionnelles, mais par contre, on a la sensation que ça s'arrête à quel âge ? Parce que moi, à un moment donné, tu vois, en coaching, je dis, mais ça s'arrête à quel âge d'après vous ? Parce qu'en fait, en tant qu'adulte, on en a aussi. Et c'est normal, et c'est OK. Et tant qu'on n'est pas OK avec cette idée pour soi, on va avoir du mal, en fait, à la tolérer totalement, en fait. Ou bien, on va juste la tolérer, pour nos enfants. Alors que ça fait partie du processus de l'être humain, d'avoir justement des émotions, et parfois, c'est un peu l'orage, quoi. Tu vois ? Et c'est normal. C'est totalement normal, parce que, encore une fois, on est des êtres sensibles, en fait, sans parler d'hypersensibilité.
Non, mais complètement. Mais en plus, tu vois, parce que moi, je pense à ces moments, si tu veux, que je peux avoir... que j'ai déjà évoqué, où par exemple, si tu veux, dans ma déconstruction par rapport aux violences éducatives ordinaires, il y a des fois ma fille, je quand elle a une crise ou une tempête émotionnelle, je la prends dans mes bras, je lui fais un câlin, tu vois, j'accompagne le truc, mais au fond de moi, tu vois, il y a cet enfant intérieur qui me dit, mais moi j'ai pas eu ça, pourquoi tu fais ça? Et il y a cette jalousie, tu vois. Et pour le coup, je me dis, mais pour une personne hypersensible, cette espèce de relation d'attachement intérieur, elle doit être hyper complexe.
C'est vraiment très drôle parce qu'à chaque fois, tu me reposes un peu finalement les mêmes questions. Alors je me dis, j'essaie d'y répondre, mais je dois mal y répondre parce qu'elle revient en fait. C'est comme si tu imaginais l'hypersensible où c'était pire pour lui quand je t'écoute.
Mais c'est, alors je veux dire, alors c'est peut-être pour le coup ma construction d'homme aussi qui fait dire ça, et mon rapport à l'émotion, mais je me dis ouais que c'est plus compliqué en fait, parce que je me dis que c'est plus intense, tu vois.
Oui, mais plus intense, ça veut pas dire plus compliqué.
C'est vrai.
C'est parce que tu imagines que l'intensité rend les choses compliquées. Mais en fait, quand t'es habitué à quelque chose tout le temps, vu que l'hypersensible vit tout le temps chose de façon intense, c'est sa normalité. Tu vois ? Et au contraire, tu vois, quand vraiment, je travaille vraiment avec les hypersensibles pour qu'ils acceptent cette hypersensibilité, bah, une fois que tu acceptes ça, mais jamais plus tu voudrais ne plus être hypersensible. Parce que sinon, ta vie, elle serait fade. Et tu vois, en tant qu'hypersensible, moi, j'en vis pas du tout les gens qui ne sont pas hypersensibles, parce que je me dis, mais ça doit être vraiment fade, en fait. Parce que les émotions, elles sont intenses, mais toutes les émotions, la joie, l'exaltation, l'excitation, tu vois, la passion, et sont aussi très intenses. En fait, c'est un peu comme si on était sous drogue tout le temps. D'une certaine manière, tu vois. Tu vois, il y en a qui recherchent cet état avec la drogue. Ben en fait, tu peux dire que les hypersensibles n'en ont pas besoin en soi, parce que ben, c'est juste ça tout le temps. Mais donc non, c'est pas plus difficile. Mais encore une fois, je pense que moi j'aime bien faire ce parallèle. Alors ça parlera peut-être plus aux femmes qu'aux hommes, mais l'accouchement. Plutôt, je vais parler d'enfantement. Et tu vois, les contractions sont intenses. Mais plus tu luttes contre cette intensité, plus finalement la douleur devient de la souffrance. Mais si tu acceptes que ça fait partie du processus de l'enfantement, ben en fait, t'en souffres pas du tout. Mais pas du tout.
Alors là, en effet, ça parlera sûrement plus aux femmes qu'aux hommes. En tout cas, je tiens à préciser à nos auditrices que vous êtes en train d'assister en direct à ma déconstruction sur l'hypersensibilité.
Eh ben, je suis contente.
Donc, non, mais tu vois, c'est vrai que je viens de percuter qu'en effet, je le voyais comme quelque chose de fondamentalement compliqué, alors que non, t'as raison. Si quelqu'un... Tu vois, je vais te donner un exemple tout con. Moi, je suis 1m93.
Mon mari aussi.
Voilà, mais ma vie est faite de ça, de ce point de vue-là. Et j'ai des gens plus petits qui m'ont déjà dit, mais ça doit être compliqué pour toi de passer les portes pour machin. Mais non, parce qu'en fait, automatiquement, je me suis habitué à me pencher, à machin, à truc. Et tu vois, je fais un peu ce parallèle là. Non, c'est pas plus compliqué finalement pour l'hypersensible parce que il le vit depuis qu'il est petit. Après, si c'est compliqué pour lui, comme ça peut l'être pour une personne non hypersensible des situations, faut juste l'accompagner et voilà
fait,
quoi.
Ce qui est compliqué, c'est le regard des autres. Tu vois, imaginons que toute ta vie, on te dise « Oh mon pauvre, t'es grand en fait, t'es trop grand, c'est un problème, penche-toi, vas-y, penche-toi un peu, baisse ta tête. » Ben en fait, tu vas peut-être complexer sur ta taille.
Bien sûr.
Tu vois, voilà. Ben c'est un peu pareil. Parce que l'hypersensible, on lui a dit depuis tout petit, mais t'es trop, tu fais trop ci, trop ça, t'es trop, mais arrête avec ça, mais arrête ton caprice, avec ces phrases de VO terribles, genre, vas-y, ben, pleure, tu pisseras moins, ou bien, dis donc, un vrai mec, ça pleure pas, enfin, tu vois, toutes ces conneries, en fait, tu m'excuseras.
Ah oui, vas-y.
Et ben, du coup, il va se dire qu'il a un problème, et il va en souffrir. C'est tout. En fait, le problème, c'est les autres. Pour reprendre la fameuse phrase.
Pour reprendre, oui, notre cher ami. Non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de... Ça n'est qu'une caractéristique, point.
C'est ça.
C'est tout. Et c'est chouette de l'entendre. Et c'est important, je pense, de le dire de manière claire et posée.
C'est tout mon travail sur les réseaux sociaux, justement.
Donc, pour le coup, Elodie, je vais te poser la dernière question que je pose un petit peu à tous mes invités. Quel conseil tu aurais pour les parents ou parents en devenir ? Là, je vais catégoriser hypersensible.
Oui.
Alors, peut-être hypersensible qui le savent ou qui ne le savent pas, je ne sais pas. Je te laisse donner tes avis. Donc, pour le coup, ces parents hypersensibles sur leur début en parentalité.
Je crois que c'est vraiment bateau, hein, mais c'est d'être bien avec soi-même. Je veux dire, d'accepter qu'on ne soit pas parfait, que cette perfection elle n'existe pas, hein, qu'il faut arrêter ce délire-là total du parent parfait. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents qui s'aiment suffisamment pour les aimer eux, en fait. Parce que, justement, je crois qu'on oublie que tout ça se fait par l'exemple. L'enfant, en fait, il apprend énormément sur notre façon d'être, Je me rappelle, tu sais, en coaching, j'avais une maman, je raconte souvent ça parce que ça m'avait énormément marqué. Et elle me disait, mais ma fille manque de confiance en elle, c'est terrible, en longueur de temps, elle se dit qu'elle est nulle, dès qu'elle n'y arrive pas, eh bien du coup, elle abandonne, et puis elle se dit vraiment qu'elle est nulle, qu'elle sert à rien, qu'elle est bête. Et puis, bon, voilà, on parle d'autre chose. Et à un moment donné, je lui explique quelque chose, et elle se tape le front comme ça, elle me dit, ah, oh, qu'est-ce que je suis conne. Et je lui dis, tu fais ça devant ta fille aussi? Elle me dit, ah ben je sais pas. Je vais te dire qu'à chaque fois qu'on t'explique quelque chose que tu ne savais pas, tu te tapes en disant que tu es conne. Tu vois ? Je dis, alors oui. Tu auras beau dire à ta fille, aie confiance en toi, si tu continues à te frapper et à t'injurier, ça va être compliqué. Tu vois ? Mais cet exemple, c'est plus parlant. Donc en fait, qu'on soit hypersensible ou non, eh bien, c'est important de s'aimer pleinement et de s'accepter pleinement. Parce que l'enfant, il comprendra qu'en fait, l'amour pour soi n'est pas du tout conditionné et qu'il n'y a pas une question de « je le mérite ou je ne le mérite pas ben ». C'est en fait « je t'aime en tant qu'être humain et je te prends dans ton entièreté, tout simplement ».
Et c'est exactement ça et c'est super beau de le dire comme ça. J'ai pas mieux. Donc, je te remercie beaucoup, Élodie, pour cet échange. C'était super enrichissant, en tout cas pour moi. Et ben, je te dis à très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.